Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Comment rester mystérieux quand on devient populaire ? Angoun, naturellement, a la réponse. Elle qui, depuis 25 ans, nous lance en chanson des sortilèges. Angoun, princesse javanaise, dont la grâce masque la détermination, mais pas le talent. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle sera aux côtés de Roberto Alagna sur la scène des Folies Bergères à partir du 28 janvier prochain pour 90 représentations exceptionnelles de la comédie musicale la plus attendue de l'année 2023. Al Capone. C'est dire, si j'ai 1000 questions à vous poser. Bonjour Angoun.
Bonjour, mais quelle introduction.
Et ce n'est que le début. Angoun. Alors, vraiment, sincèrement, la dernière fois que j'ai reçu Roberto Alagna, dans ce studio d'ailleurs, il m'a confié avec un enthousiasme débordant qu'un projet de comédie musicale hors norme, je dis bien hors norme, c'était son expression, se montait donc sur Al Capone avec un livret musical prodigieux, une distribution inespérée, Bruno Pelletier, la plus belle voix du Canada, qui chantait le temps des cathédrales dans Notre-Dame de Paris, qui sera Elliot Ness, donc l'incorruptible agent du trésor qui fit tomber Al Capone, et vous, Angoun, qui serez Lily, la vénéneuse maîtresse d'Al Capone, Capone bien sûr étant interprétée par Roberto Alagna.
Oui.
Donc vous êtes une cachotière.
Comment ça ?
Si, vous êtes une cachotière parce que quand on vous voit dans Masked Singer, avec une candeur presque enfantine, et ben on est très loin d'imaginer le défi auquel en secret vous vous préparez avec une voix à la fois rock et opératique. Parce que j'ai eu le privilège d'écouter les premières chansons. Franchement, pour chanter avec notre ténor d'opéra le plus célèbre au monde, j'avoue que je suis très bluffée.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais il est vrai que les Français me connaissent avec dans un registre qui est beaucoup moins, comment je dois dire, comme ça, chanteuse à voix. Voilà.
Moi, je découvre.
Oui, parce qu'en fait, mes chansons sont toujours assez... soyeuse, assez, même si parfois, lors des émissions télé, il m'arrive j'ai dû chanter pour une émission spéciale Céline Dion.
Oui.
Et donc voilà, il fallait donner de la voix. C'est comme si les gens me découvrent. Donc ça m'amuse beaucoup parce que justement, c'est ça. Je trouve ce qui est sympa, c'est aussi de faire découvrir beaucoup de facettes de soi pour pas que le public s'ennuie.
Bien sûr. Mais alors, comment êtes-vous entrée dans cette folle aventure dont tout le monde va parler en janvier prochain, Al Capone ?
Alors, ça fait partie des cadeaux que la vie m'offre. En fait, un jour, vous savez, dans les réseaux sociaux, etc., souvent, les gens vous envoient des messages privés, en privé, que je regarde très, très peu, voire même jamais. Et un jour, sur mon Instagram, donc je regarde, juste pour vérifier, et j'ai lu un message de Jean-Félix Lalanne.
Qui a signé le livret musical d'Al Capone.
Et qui a écrit les chansons. Et donc je disais, tiens, Jean-Félix Lalanne. donc j'ai lu ce message. Et je disais que ça fait 2 ans, j'essaye de vous joindre. Mais c'est ça, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le métier est assez petit. On se croise pas trop, on connaît pas les mêmes genres de personnes. En fait, il y a un petit peu comme des clans parfois dans le milieu. Et donc en fait, il a pas su me trouver.
En plus, c'est un clan particulier, Roberto Alagna.
Oui,
réputation internationale. Ténor prodigieux. Vous aviez déjà chanté avec lui, je crois.
J'avais déjà, partagé plusieurs duos avec lui. Et à chaque fois, j'en garde, mais vraiment un souvenir mémorable. Et puis, donc voilà, lorsque
il m'a
parlé de ça... Mais
Bruno Pelletier, vous ne le connaissiez pas ?
Non, absolument pas. Enfin, je connaissais lui en tant que chanteur, magnifique, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais en fait, c'est ça, le truc avec Al Capone, c'est que... Nous allons faire 90 dates exceptionnelles, donc fin de janvier 2023.
28 janvier
voilà. Jusqu'au 12 mai. Et justement, c'est quand même un exploit de pouvoir rassembler les emplois du temps Roberto. Parce que
chanteur d'opéra, il paraît que l'agenda est prévu parfois 3-4 ans à l'avance.
Exactement. Et ça, justement, le fait que Roberto signe pour 90 dates comme ça, et il est sûr, il bloque hein, dans son agenda. Et puis Bruno Pelletier, lui non plus, il habite pas en Europe. Et moi qui suis souvent en vadrouille. Donc voilà, c'est quand même un exploit.
Alors, la comédie musicale, ce genre. La comédie musicale, c'est une première pour Roberto Alagna et c'est également une première pour vous, Angoune.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus ravie parce qu'en fait, on m'a proposé plusieurs rôles déjà pour plusieurs comédies musicales, mais je ne sentais pas. Et puis lorsque Jean-Félix m'a parlé justement de cette histoire d'Al Capone, et puis il me parle directement qu'il y avait déjà Roberto dedans et puis Bruno Pelletier. Donc je dis, tu sais quoi Jean-Félix, j'ai dit oui directement. Et puis, il m'envoie quand même des chansons juste comme ça. Et voilà. C'était fait.
Alors, effectivement, Jean-Félix Lalanne a écrit ses chansons dans un registre presque opératique, avec des envolées dans les scènes qui sont vraiment inouïes. Je le dis et je le martèle, on découvre une véritable diva. Et puis, on imagine que la maîtresse d'Al Capone, de toute façon, c'est forcément une panthère. Donc, il faut qu'elle ait beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère.
Oui.
Alors, vous vous envolez dans les cintres, mais la voix, le feu...
Alors, c'est une femme fatale.
Forcément.
Parce qu'en fait, justement, pour tourner la tête de ce gangster, il fallait une femme d'un certain caractère. Et Lily, justement, mon personnage, est ça. En fait, elle lui tient tête. Elle est patronne d'une boîte de filles de joie. Voilà. Et puis je trouve ça drôle en fait. Mais par contre, c'est quand même une femme dont en fait un des buts de sa vie, c'est d'avoir un homme qui l'aime et qui arrive à lui dire je t'aime. Et ce qui n'est pas le cas de Capone. En fait, Capone, c'est un vrai gangster. Il ne veut pas trop montrer ses sentiments, même si ses sentiments sont réels pour Lily. Il n'arrive pas à le dire.
Mais bien sûr, voilà. Parce que ce serait comme un aveu de faiblesse.
Alors, il est temps
de livrer le pitch de cette comédie musicale. Tout le monde sait que Al Capone fut l'un des chefs de la pègre les plus redoutés aux États-Unis pendant la Prohibition, cette période qui va de 1920 à 1933, au cours de laquelle donc la production et la vente d'alcool étaient formellement interdite sur le sol américain. Et Al Capone, qu'on surnommait Scarface, le balafré, a fait une fortune considérable dans le trafic d'alcool en assassinant à tour de bras donc ses rivaux des bandes adverses. Quand la comédie musicale démarre, Angoune, on est à quel moment de la vie d'Al Capone? Et qu'est-ce qui va se jouer sous nos yeux?
En fait, on va voir là le moment où il est devenu... Al Capone, c'est-à-dire le moment où il est devenu Scarface. C'est le moment où il est devenu le véritable gangster assez impitoyable, quoi. Donc, c'est à
il
ce
règne.
Moment-là.
Oui. Il règne.
Exact. Exactement.
Alors, Angoune, il paraît que vous avez d'abord travaillé à distance. Chaque artiste, en fonction de son agenda, donc, dans un pays différent, travaillait. Je voudrais savoir comment s'est déroulé. Enfin, la première vraie réunion de travail au cours de laquelle donc vos voix ne se sont pas répondues virtuellement, mais bien en live. Il y a un moment où soudain vous avez été réunis tous en studio. Ça s'est passé comment ?
Eh bien, en fait, nous avons fait des répétitions récemment. Enfin, c'était il y a quelques semaines pour faire un showcase. Et c'est le moment où tout le monde s'est rencontré pour la première fois sur ce projet. Et c'était magique, tout simplement. Et en fait, on s'est mis tout de suite sur scène. Chacun connaissait les chansons depuis bien longtemps. Et en fait, nous avons fait un spectacle de présentation d'une demi-heure ou 40 minutes pour la presse. Et c'était, voilà, ça nous donne même encore... tout simplement, on a hâte, quoi. On a super hâte d'être en décembre cette année pour pouvoir justement répéter.
Il reste encore 8-9 mois, hein,
oui,
donc c'est un
sacré
compte à rebours. Alors, il est très rare, Angoune, qu'une comédie musicale bénéficie d'un budget de 5 millions d'euros pour sa production. Jean-Marc Dumontet, qui produit entre autres Nicolas Canteloup et Alex Lutz, et qui est copropriétaire donc, des Folies Bergères, où se jouera le spectacle à partir du 28 janvier prochain, eh bien Jean-Marc Dumontet mise très gros parce qu'il y croit très fort.
Très, très, très fort. Et puis, c'est surtout aussi sa première comédie musicale.
À lui aussi.
Oui, donc voilà. Donc, en fait, Et en plus, ce que j'adore aussi, c'est le fait qu'on va jouer aux Folies Bergères. Donc là, déjà, l'immeuble, le théâtre, les gens vont arriver, déjà, ils seront dans l'immersion. Parce que là, on voit voilà, les années folles.
Oui, c'est un lieu historique.
Ah, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de montrer ce spectacle au public. Parce que rien que vous allez voir qu'entre les artistes qui aiment, qui adorent, qui sont là pour ce projet, mais et puis nous avons un producteur qui est tellement enthousiaste. Voilà, c'est un petit peu comme les maillons de cette chaîne qu'on a envie de que ça tourne vite.
Vite, mais il y a quand même 8-9 mois encore devant
oui,
vous.
Oui, c'est vrai.
Alors parce que vous devrez être au sommet de votre forme et au sommet de votre art le soir du 28 janvier. Comment vous le prévoyez, ce compte à rebours qui fait un petit peu penser au rendez-vous, vous savez, des Jeux Olympiques pour un sportif?
Oui, c'est vrai, mais vous savez que ce n'est pas encore réel pour nous. Parce que
c'est ça.
Là, nous avons pu travailler pendant une semaine en préparant le showcase, justement. Et à la fin de ce showcase, le moment où on l'a fait, et puis à la fin, on se dit bon ben, à dans 10 mois, à dans 9 mois. Et donc
c'est
je
cruel.
Disais aux chanteuses, bon, faut pas tomber enceinte. Et puis voilà, donc il y a des choses, voilà, on se donne rendez-vous, mais c'est ça fait partie de ce rendez-vous qui va être très très importante dans chacun de nos vies artistiques, je pense, ouais.
C'est formidable. On fait une pause très très courte, premier juré, et on retrouve tout de suite Angoune. On est bien sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
De la grâce, mais de la force. Une voix suave, mais puissante. Ensorceleuse, mais puissante. Angoune sera la vénéneuse maîtresse d'Al Capone dans la comédie musicale du même nom qui démarre aux Folies Bergères, le 28 janvier prochain. Alors, Angoune,
oui.
Vous demeurez mystérieuse pour les Français,
ah bon,
alors qu'on vous connaît, depuis 25 ans. Il faut dire que vous venez vraiment d'une autre planète, l'Indonésie. L'Indonésie formée d'un archipel baigné par l'océan Indien au sud, par la mer de Chine au nord et l'océan Pacifique à l'ouest. Ça fait rêver. Un archipel composé, alors on dit de plus de 13 000 îles, mais maintenant par satellite, on sait qu'il y en a 17 500.
Il y a plus de 17
000,
oui,
voilà.
C'est ça. Mais ils ne sont pas tous habitables, mais nous sommes tellement fiers, donc nous les comptons quand même.
Voilà, exactement. 275 millions d'habitants, donc, en Indonésie, répartis en 750 peuples et autant de langues et de dialectes, même si on y parle majoritairement le japonais.
L'indonésien, c'est la langue nationale.
Voilà. Et le javanais et le malais?
Le javanais, c'est un dialecte qui est parlé sur l'île de Java, mais il existe plusieurs dialectes de javanais déjà.
D'accord.
Moi, j'en parle deux. Mais très mal, parce qu'en fait, ma mère était issue d'une famille royale. Et elle parle un autre niveau de javanais que mon père, que lui était roturier.
On va tout savoir. Justement, Angoune, qu'est-ce que les Français ignorent de l'Indonésie et qui constitue sa spécificité, son âme?
Oh, on ignore, les Français ignorent beaucoup de choses de l'Indonésie parce qu'en fait déjà c'est très loin. Mais maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'ils font moins d'erreurs quand même, même s'ils ont du mal encore à trouver, à situer exactement l'archipel. En fait, on dit souvent l'Indonésie, c'est Bali. Oui, Bali, c'est une des îles indonésiennes. Lorsqu'on voit des Indonésiens, parfois, on n'est pas sûr que c'est... Est-ce que ce sont des Indonésiens ou est-ce que ce sont des Espagnols? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de races mélangées.
Oui.
Dans le sang indonésien, il y a... nous sommes... je ne sais pas, nous avons... Moi, j'ai des familles qui ont des yeux, mais vraiment très bridés.
Oui.
Et puis d'autres qui ont des yeux en amande, comme moi, avec la peau plutôt
claire,
café au lait. Et puis, il y a d'autres qui ont la peau plutôt blanche. Et puis, lorsqu'on va vers l'est du pays, ce sont des Noirs indonésiens.
Alors, votre nom complet, Bien sûr, moi, je n'ai pas l'accent qu'il faut.
Non,
bon, mais il faut m'excuser. C'est donc Angoon, oui. Tsipta, oui. Sasmi.
Ah, ben, merci beaucoup. Vous me faites bon. Tellement plaisir.
Alors, j'imagine que ça a une signification en
oui.
indonésien.
Ça veut dire la grâce. Donc, Angoon, c'est la grâce. Tsipta, c'est création. Donc, oui. Et Sasmi, c'est rêve. Donc, c'est la grâce qui s'est créée dans un rêve.
Bon, ils ne sont pas trompés, vos parents.
Non, bon. C'est surtout mon père qui était écrivain. Mais il fumait beaucoup.
Il était très bien inspiré. Vous avez grandi à Jakarta, la
oui,
capitale.
Exactement. Oui.
Bon, alors, votre papa, Angoon, c'est un personnage étonnant, à la fois écrivain, vous venez de le dire, mais aussi chanteur, producteur, journaliste politique, sculpteur, poète, qui appartenait donc à l'intelligentsia du pays, tout en étant, paraît-il, très très détaché des biens matériels. Il vous a élevé de quelle manière ?
D'une manière, c'est ça. En fait, ce qui est assez drôle, parce que justement, comme je vous disais, que ma mère était, elle a du sang bleu,
oui.
Et mon père, pas du tout.
Oui.
Donc, il nous a inculqué le fait que, parce qu'en fait, ma mère avait un titre. Elle a perdu lorsqu'elle a épousé mon père. Donc pour lui, l'aristocratie n'a pas sa place dans la société, voilà. Et puis, en fait, mon père était marxiste, c'est pour vous dire.
Alors, l'amour a été le plus fort.
L'amour était beaucoup plus fort que tout. Et puis, donc, et puis avoir un père comme ça, en fait, nous sommes bien sûr d'une famille musulmane, comme
oui.
beaucoup d'Indonésiens, mais il avait voulu que ses enfants aillent dans une école catholique, par exemple. Donc j'étais...
Mais pourquoi ce choix ?
Parce que c'est vraiment pour avoir une ouverture d'esprit, il voudrait pas que nous sommes que voilà, nous ayons cette impression, ce n'est pas une impression, ce qui est une vérité, que la religion était quelque chose qui était imposé par l'État. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça, à l'heure actuelle, c'est que l'endroit ou le continent où vous êtes né, il impose ou détermine un peu
voilà.
la religion dont
voilà.
vous allez avoir plus tard. Et donc, mon père...
Votre père voulait...
Voilà, il voulait nous libérer...
Pouvoir signifier qu'on peut choisir.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, Angoon, vous dites qu'en Indonésie, on s'est chanté avant de savoir parler, car la musique est vraiment partout.
C'est vrai.
Mais de là à devenir une star du disque pour 275 millions d'Indonésiens à l'âge de seulement 9 ans, c'est quand même une autre histoire. Alors, j'aimerais bien que vous nous la racontiez, car à 13-14 ans, vous donniez des concerts dans des stades face à 300-400 000 personnes. Comment tout ça a-t-il commencé ?
C'était 80 000 personnes.
Oh, mais c'était que 80 000
mais
personnes.
Mais c'est pas mal. Oui, oui.
Excusez-nous, ça n'était que 40 fois l'Olympia. Oh.
En une seule fois.
En une seule fois.
Oui. Mais c'était... Mais comment vous dire, encore une fois, j'avais pas, à l'époque, surtout en Indonésie, nous sommes très protégés, en fait, parce que j'étais star enfant.
Oui.
Mais j'avais pas du tout cette, et puis surtout avec un père que j'avais, je savais qu'il y a une part, on doit faire une part des choses, il y a une part. Qui n'est pas réel. Chanter devant 80 000 personnes.
Oui,
ou
mais
chanter...
comment ça vous est arrivé ? Parce que ça a commencé très, très tôt.
Oui, c'est vrai.
C'est vous qui avez dit à vos parents que ça vous amuserait d'enregistrer un morceau. Vos parents ont rencontré des gens qui ont permis l'enregistrement d'un disque.
Non, non, parce qu'en fait, je commençais à donner des concerts à 7 ans. C'était dans un espèce de d'un parc voilà, c'est comme le Disney local, voilà. Et puis donc il y a toujours une scène avec un groupe et moi je disais oui, je veux chanter jusqu'à que le manager de cet établissement me demande il avait demandé à mes parents si je voulais venir tous les week-ends et on
oui.
paye pas l'entrée
oui.
etc. et puis que je chante et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis jusqu'à un moment où lorsqu'ils avaient des événements particuliers, ils me demandent si je voulais chanter.
Et voilà. On vous a repéré.
Et voilà, c'était à ce moment-là, on m'a repéré. Et puis, il y avait, lorsque j'avais 9 ans, il y avait un producteur qui avait contacté mes parents. Voilà, j'ai vu votre fille chanter. Est-ce qu'elle voudrait faire un album ? Et il me pose la question. Je dis, oui, je veux bien, si mes parents sont d'accord.
Les
et
parents
donc, ça
étaient
là.
D'accord. Et l'album, en fait, a si bien fonctionné qu'il y en a eu un second, un troisième. Et au milieu des années 90, eh bien, on vous appelait, c'était votre surnom en Indonésie, la Madonna indonésienne. En fait, vous incarniez pour toute une génération une sorte de fascination aussi pour l'Occident, vu la musique qui était la vôtre.
Oui, parce qu'en fait, bien entendu, tout ce qui se passait aux États-Unis, voilà, ça fait écho jusqu'à chez nous. Donc, on voudrait... À l'époque, j'étais chanteuse de rock, en plus. Je voulais... voilà, on écoutait tout ce qu'il y avait à la radio. On essayait de faire la même chose, un peu à la notre manière. Ouais.
Vous aviez monté votre propre boîte de production.
Tout à fait.
Tous vos albums triomphaient. Donc... J'imagine que vous deviez avoir 18-19 ans. Vous vous êtes dit un beau matin que peut-être il était temps d'aller vous frotter véritablement au rêve occidental. Surtout qu'à l'époque, l'État en Indonésie verrouillait toute l'information. Donc vous vouliez vous faire votre propre idée du monde, c'est ça, Angoune?
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dois dire aussi que mon père a été, il jouait un rôle important parce qu'en fait, il voudrait pas que je m'arrête juste en Indonésie. Et puis il voyait que ça marchait bien pour moi et que entre guillemets, je répétais la même recette.
Oui, donc c'est lui qui vous a soufflé à l'oreille.
Un petit peu. Il
me provoquait. Il vous a provoqué.
Ouais,
ce serait bien d'aller voir de l'autre côté de l'océan.
Voilà. Voilà, et comme je suis têtue, je suis taureau, lui il était scorpion, il me piquait. Et voilà, je suis partie, il est contente. Mais voilà.
Ah, la maman. Ah, ouais. Angoune, pour tenter l'aventure occidentale, vous n'avez pas choisi l'Amérique, vous avez choisi l'Europe. Oui. Et d'abord Londres. Pourquoi ?
Parce que, en fait, tout simplement, la musique que j'écoutais et que j'adorais, mais j'adorais Queen. Les Beatles, Rolling Stones, etc. Donc, j'ai grandi avec ça. Donc, et puis, je n'avais pas vraiment un rêve américain à remplir. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours fasciné l'Europe plus que l'Amérique parce que, voilà, c'est sur cette étendue de territoire. Il y a plusieurs langues. Il y a beaucoup plus
ça
de cultures.
Ça paraissait plus riche culturellement.
Tout à fait, tout à fait.
Mais Londres a été une sorte de désenchantement.
Oui, mais c'est ce qui est normal parce que et ça m'a appris beaucoup de choses parce que vous savez, à 20 ans, lorsque je suis partie de chez moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire non. Et j'ai entendu la première fois à Londres. Non, ça nous intéresse pas. Non, c'est pas assez bien. Ou alors non, on est en train de chercher un groupe comme Spice Girls. Donc si tu as d'autres copines qui chantent pareil que toi, toi tu nous intéresses, mais seule pas trop. Donc voilà. Et donc il y avait beaucoup de rejets de cette manière, mais ce sont des années qui m'ont appris en fait finalement. Parce que jusque-là, j'ai été protégée.
Alors, vous avez débarqué à Paris, en Gaune, sans parler un seul mot de français. D'ailleurs, comment vous êtes organisée ? C'est pas du tout évident. Quand on arrive sans connexion, on connaît absolument personne. C'est une aventure qui démarre assez improbable. Vous êtes organisée comment ?
Je dois dire que j'avais beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur des... Parce qu'en fait, j'habitais dans les hôtels à Londres et ici aussi. Donc, je louais, voilà. Après, je louais des appartements de courte durée. Et je rencontrais donc ma voisine à l'époque qui m'a fait rencontrer... Alors, ça, c'est une histoire encore un peu bizarre. Le voisin de l'oncle de mon ex-voisine, donc, était un électricien qui connaissait, qui avait dépanné un jour Florent Pagny.
Voilà. Vous me faites un teasing absolument génial pour la suite. C'est formidable parce que là, c'est prodigieux. Parce que j'allais vous dire que franchement, en Indonésie, vous étiez une star, à Paris, une inconnue.
Ouais.
Faut une sacrée pugnacité pour ne pas craindre justement de tout balayer et avoir la force de tout recommencer. Et alors parfois, le hasard vous fait des clins d'œil heureux. Donc la voisine a un cousin qui connaît l'oncle de l'électricien qui a dépanné Florent Pagny.
Oui,
vous allez connaître la suite de cette aventure hallucinante racontée par Angoune elle-même. Angoune qui sera la star donc, de la comédie musicale Al Capone aux Folies Bergères à partir du 28 janvier prochain. La suite, vous allez la connaître dans un instant.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Elle vient de loin, Angoune, notre princesse javanaise, qui chantera aux côtés de Roberto Alagna dans la comédie musicale, vraiment la plus attendue de l'hiver prochain, Al Capone, qui débutera le 28 janvier au Folies Bergère à Paris pour 90 représentations exceptionnelles. Mais ce qui est épatant, c'est que cet après-midi, ben voilà, on se balade avec la belle Angoune. Alors, on continue d'agiter les souvenirs, Angoune.
Oui.
Les gens qu'on croise dans ce métier ont, allez, il faut bien le dire, ils ont très souvent un ego surdimensionné. Mais il arrive que certains gardent une vraie curiosité et une empathie pour les autres. Mmh. C'est le cas de l'artiste qui vous a aidé, donc, quand vous avez débarqué à Paris, sans connaître notre langue, sans aucune connexion avec les gens du métier. Votre ange gardien, eh bien, ce fut Florent Pagny. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était par la voisine qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait l'électricien qui était venu dépanner l'appartement de Florent Pagny. Et à partir de là, comment la connexion s'est-elle faite ?
Bah, tout simplement, dans ce monsieur électricien, qui avait dépanné Florent Pagny, avait justement, puisqu'il avait dépanné, donc Florent était reconnaissant et lui a donné son portable ou sa carte, et en lui disant que si jamais un jour tu as besoin de moi, appelle. Voilà. Et puis, donc, il a utilisé ce moment-là pour me présenter, parce qu'il savait que, voilà, il a entendu comme quoi j'étais chanteuse, j'essayais de percer, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, donc, j'ai rencontré Florent à son bureau à l'époque, à Issy-les-Moulineaux. Je me rappelle toujours parce que je dois faire des changements de métro. C'était pas évident. Et puis il m'a tout simplement. Donc je suis venue avec mes cassettes, les VHS que il a écouté, il a regardé et puis il dit bah tu sais quoi, mais qu'est-ce que tu fais là en France alors que normalement on reste à Londres. Donc j'ai dit non mais ça a pas marché. Il dit, ah je comprends. Mais t'inquiète, je vais te présenter à mon équipe de l'époque.
Et ce n'était pas une promesse.
Ce n'était pas
Florent,
du tout
une promesse. Florent, il fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire.
Ah, mais il est classe. Et en fait, tout simplement, donc voilà, il me tenait par la main, il m'a présenté à tout ce monde artistique parisien. Enfin, surtout ses musiciens et puis ses compositeurs.
C'est
il y avait Eric Benzi.
Voilà.
Et donc avec lui, voilà.
Eric Benzi qui venait de réaliser pour Céline Dion l'album 2.
Sur lequel l'album Garou 2 avec Jean-Jacques Goldman.
Voilà, avec Jean-Jacques Goldman. Oui. Donc Eric Benzi composera le titre qui va lancer votre carrière en France, La Neige au Sahara.
Tout à fait.
Mais alors j'ai appris Angoune que votre version anglaise de La Neige au Sahara est entré dans le top 20 du très prestigieux Billboard Charts aux États-Unis. Vous auriez pu à ce moment-là lâcher la France pour les States ?
Non, mais j'ai travaillé dans plusieurs territoires, justement, parce qu'il y avait la version française de l'album, ou alors il y avait l'album français, et puis il y avait la version anglaise de l'album, qui était donc sortie dans plus de 33 pays, dont les États-Unis. Et les États-Unis, j'ai vécu pendant plus d'un an à faire la promo, parce que c'est un immense pays. Mais après, ça ne m'a pas...
Vous n'avez pas accroché?
Non, parce qu'en fait, lorsque vous allez là-bas, tout d'un coup, vous devez vous américaniser. Donc, vous devez avoir une équipe américaine, tout, et puis changer même manière dont vous devez vous habiller, etc. Donc, ça, je ne sais pas, ça m'a pas... Voilà.
Et alors, j'ai appris aussi que les Américains vous avaient proposé de tourner dans un James Bond, et vous avez refusé.
Oui.
C'est chic.
Merci de dire que c'est chic.
Je trouve ça très, très chic.
Oui, c'est chic de refuser James Bond, oui.
Bon, oui, non, finalement.
Mais c'est vrai que c'était un peu osé quand même de refuser cette opportunité. Mais en même temps,
ça devait pas leur arriver souvent.
Non, mais et puis surtout en fait, on m'a dit qu'il y avait une malédiction des Bond Girls. Voilà, parce que bien souvent les James Bond Girls, on les connaît plus. Ensuite, James Bond reste, mais pas les Bond Girls.
Alors, ce qu'on n'imagine pas non plus, Angoune, c'est à quel point vous êtes une grande voyageuse. On s'en doute, mais franchement, vous ne cessez de tourner partout dans le monde. Quand on ne vous voit plus en France, à la télé, c'est parce que vous êtes sur un autre continent, sur des scènes en train de chanter.
Oui.
Mais, et d'ailleurs, vous retournez très souvent chanter en Asie. Vous chantez en combien de langues ?
En trois. Je chante en langue dont je parle. mais il est vrai que j'ai fait des duos avec des artistes italiens, alors que je ne parle pas la langue. Je comprends l'italien, mais je ne le parle pas.
Puisque vous parlez de l'Italie, Angoune, plusieurs fois, vous avez chanté au Vatican.
Oui, c'est vrai.
Vous avez chanté pour le pape Jean-Paul II. Vous avez chanté pour Benoît XVI et plus récemment, vous avez chanté pour le pape François.
C'est ça.
Mais pourquoi de telles accointances avec le Vatican ?
Non, mais quand même, rencontrer trois papes...
Ça aussi, c'est chic.
C'est énorme, non ? Et non, tout simplement, le Vatican organise des concerti di Natale tous les Noëls, en fait. Voilà. Donc, au sein du Vatican, avant... durant le temps de Jean-Paul II.
Oui.
Et après, Benoît XVI est arrivé, on ne peut plus chanter dans le Vatican. Donc on doit chanter à un auditorium
un petit plus
peu
rigoriste.
Loin. Oui, oui, voilà. Il n'aimait pas la musique. À part Mozart, il n'aimait personne. Et puis après, donc maintenant, voilà, la dernière...
Avec le pape François.
Avec le pape François, voilà, nous l'avons rencontré, c'était assez impressionnant pour moi en fait.
Mais alors faites-nous entrer au Vatican.
Oui.
Comment ça s'est déroulé? Parce que c'est un monde dans la ville de Rome,
oui.
C'est très impressionnant.
Mais vous êtes déjà allé aussi là-bas, non?
Au Vatican. Mais je n'ai pas rencontré de pape, hein, cher Angoune.
Faut venir avec moi.
Voilà, exactement.
Je vous amènerai. Non, mais oui, c'est un monde vraiment à part, oui. C'est un pays à part. Mais on est là face à une histoire, donc voilà.
Et vous qui avez grandi dans une institution catholique,
tout à fait,
en plus
avec les bonnes sœurs,
avec entourée de bonnes sœurs, et bien là vous n'étiez pas dépaysée. Alors à l'opposé, Angoune, du cérémonial du Vatican et du recueillement qu'on imagine au Vatican, eh bien on vous retrouve. Alors, je continue de dérouler le fil,
le
parce
parcours,
que votre
oui.
Ah oui, votre parcours, il est franchement impressionnant. On vous retrouve à 12 000 kilomètres de là, parce que j'ai cherché quelle était la distance justement entre l'Europe et l'Indonésie. On vous retrouve à 12 000 kilomètres de là, juré de l'émission de télé-réalité la plus regardée au monde, car chaque semaine, il y a plusieurs centaines de millions de téléspectateurs qui sont devant le poste pour regarder l'Asie a un incroyable talent. Bon, vous étiez juré de cette émission. Avant, vous aviez été juré d'X-Factor en Indonésie.
Oui.
Ensuite, vous avez été juré de The Voice en Indonésie. Et puis maintenant, Masked Singer en France. Pourquoi cette carrière parallèle de juré?
Ah, je trouve ça amusant. Vraiment amusant parce qu'en fait, c'est une manière aussi de voir notre métier différemment. La scène, je connais. Donner des concerts, je connais. Rencontrer, enfin voilà, faire la télé, je connais. Mais faire le mentor, essayer de partager ce qu'on a pu emmagasiner jusqu'à présent, des nouveaux talents, je trouve ça... cette transmission, en fait, c'est assez nécessaire.
Alors, voilà. Cette transmission, elle est nécessaire. Mais par exemple, pour une émission comme Masked Singer, où on vous demande là d'être plus dans le lâcher-prise.
Oui, ça c'est autre
chose.
Et
dans la gaieté. Oui. Effectivement, là, les gens vous découvrent.
Oui, oui, c'est vrai que depuis Masked Singer, en fait, on me trouve sympa. Avant, on me trouvait... oui, en fait,
plutôt
on me fait
timide,
coucou de loin.
C'est ça.
Oui, voilà. Et puis maintenant, on n'ose plus à m'aborder.
Mais alors, parce que c'est à l'échelle, bien évidemment, de chaque pays. L'Indonésie, c'est 275 millions d'habitants. Quand un programme comme Masked Singer est regardé en France par 4 ou 5 millions de téléspectateurs, il est regardé en Indonésie par 200 millions de personnes. Donc, le star system en Indonésie est très différent d'ici.
C'est très différent, mais c'est surtout, en fait, l'émission qui était le plus regardée, c'était Asia's Got Talent.
Oui.
C'était parce qu'on regroupe pratiquement 20 pays d'Asie. Et ça
fait
assez
en tout
étourdissant.
Combien on m'a dit que ça approchait le milliard
c'est
de téléspectateurs.
C'est énorme, en fait. Voilà.
Attendez, quand on se prépare
pour
un milliard de téléspectateurs et on se dit, je mets cette robe-là ou je mets l'autre? Qu'est-ce qui me va le mieux? Et aujourd'hui, je me coiffe comment? Je me maquille comment? Pour un milliard, j'ai un date avec un milliard de personnes.
Date, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas réel, en fait. Vous savez, lorsque vous regardez la caméra, c'est toujours ce voyant rouge et vous adressez, voilà, que ça soit à une personne ou... des millions de personnes ou des centaines de millions, vous devez donner la même intensité.
Angoune, c'est Jean-Luc Reichmann qui vous a proposé de le rejoindre sur un épisode de Léo Mattei, ou bien c'est vous qui lui avez fait savoir que jouer devant une caméra, ça vous intéresserait?
Un peu des deux, en fait. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, je commence à faire mon petit pas vers la fiction. Et puis, donc, je suis représentée par un homme tout à fait charmant, Johan de Birac. Et puis, donc, voilà, un jour, il dit « Léo Mattei, tu connais ?» Il dit bah, « Bien sûr, je connais. » Et puis, Jean-Luc Reichmann, je trouve super charmant. Et il est sympa. Et ben voilà, si tu as envie, il y a un rôle pour toi. Donc, voilà.
Avec Al Capone, la comédie musicale donc, qui va démarrer aux Folies Bergères le 28 janvier prochain, avec autour de vous Roberto Alagna et Bruno Pelletier, vous allez pouvoir enfin marier en fait, sur scène tout ce que vous aimez. Parce que vous adorez donc jouer la comédie, le chant, la danse, vous transformer, être une autre. Mais c'est un défi... est-ce que c'est le plus grand défi de votre carrière, celui-ci?
Ah, oui, je dois dire que oui. Ça y est, là, vous me donnez un peu la chocotte. Non, mais c'est une discipline qui est plus qui englobe le tout, oui. C'est pour ça que maintenant, ça existe des écoles pour des comédies musicales.
Oui, depuis peu.
Ah oui.
Voilà.
Et c'est vraiment un métier à part entière. Lorsque vous voyez une pièce, à Broadway... Mais la qualité des artistes, incroyable quand même. C'est ils peuvent chanter la tête en bas avec être suspendu à 10 mètres de sol, chanter et donner de la voix comme ça sans problème.
Et Jean-Marc Dumontel, producteur, a sorti le grand jeu pour Al Capone. Souvent les comédies musicales sont chantées sur des bandes d'orchestre, hein, bien sûr.
Oui.
Sur scène, les artistes sont en live, en direct, mais les musiques sont enregistrées. Or là, aux Folies Bergères, il y aura un vrai grand orchestre, exactement comme pour un show pop-rock.
Exactement. Donc, il y aura une trentaine de musiciens, je crois.
Wow.
Donc, c'est pour ça que là, c'est une autre manière de se produire sur scène. Parce que souvent, en fait, on se dit, je ne suis pas très comédie musicale. Oui, mais ça, c'est différent. C'est vraiment différent. C'est comme si, en fait, on raconte une histoire sur scène, tout simplement. On met avec un décor qui va être époustouflant. Et puis, on a Jean-Louis Grinda qui a fait la mise en scène.
Oui.
Mais vraiment...
Et puis les chansons ne se contentent pas dans un genre, puisqu'il y aura des mélodies pop, des mélodies rock,
jazz.
Il y aura du jazz, du lyrique, de la chanson italienne, et ce qu'on appelle le genre opératique dans lequel brille
Roberto Alagna. Ah oui, ça c'est son... Nous serons dans sa maison, en fait. Non, mais c'est assez complète, et puis c'est riche. C'est riche en émotions, c'est riche en compositions. Et puis l'histoire est touchante parce que même si on parle d'Al Capone, c'est tiré librement de sa vie. Donc ce n'est pas autobiographique. Et puis de voir le face-à-face entre Roberto Alagna et Bruno Pelletier. Moi, je suis fan. Moi, à chaque fois, je regarde derrière. D'avoir de tels partenaires, ça ne peut que vous élever et vous n'avez qu'envie de donner le meilleur, vraiment.
On retrouve tout de suite Angoune.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Angoune, il faut beaucoup aimer la France pour demander la nationalité française en sachant qu'on perdra la nationalité de son pays d'origine, car, je le précise, l'Indonésie n'admet pas la double nationalité.
Oui.
Ça, vous le saviez quand vous avez demandé la nationalité française?
Oui, c'est vrai. Mais je ne savais pas. Je croyais que la binationalité, à l'époque, c'était... ils en parlaient et puis ils me disaient que peut-être... Et puis finalement, ça n'a jamais été adopté.
Et pourtant, vous n'avez pas renoncé.
Vous
êtes dit, tant pis, je deviens française,
oui,
même si je perds la nationalité indonésienne.
Oui, parce qu'en fait, je serai toujours indonésienne. C'est mon
dans
sang.
Votre cœur.
Oui, et puis c'est toute une histoire. Mon historique derrière, c'est mes parents, ce sont mes souvenirs. Ça ne changera jamais. C'est juste le fait que je vis en France. On m'a donné une nouvelle identité, on m'a donné une belle langue, on m'a donné une telle opportunité. Je paye mes impôts en France. Donc, c'est une manière aussi de... Et en plus, voilà, j'ai représenté la France pour l'Eurovision.
Bien sûr.
Enfin, voilà, on m'a adoptée ici.
Bien sûr.
Et c'est tout simplement... C'est une manière pour moi de renvoyer un petit peu. Et puis surtout, voilà, lorsque j'ai demandé la nationalité, c'était le temps de Chirac. Je l'ai obtenu assez rapidement, donc j'étais très très contente. Je suis ravie.
Mais alors, qu'y a-t-il maintenant de typiquement français en vous depuis 25 ans que vous vivez à Paris?
Oui.
Je parle du tempérament, du caractère, de... Qu'est-ce que vous avez pris de positif ou peut-être de négatif?
Je sais maintenant dire non.
Ils sont très
et
doués pour dire non, les Français,
pourquoi.
C'est ça?
Oui, parce qu'en fait...
Voilà, ils adorent la polémique.
Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, en Indonésie, on ne nous a pas appris à dire non. Parce que une simple négation peut faire la face de l'autre. Vous savez, on fait toujours attention pour pas que l'autre...
C'est très codifié.
Ah, oui, oui. Mais... Et donc, du coup, en fait, en Indonésie, puisqu'on ne nous a pas appris à dire non, donc on est devenu un petit peu plus créatif dans notre manière de refuser les choses. Alors qu'en France, voilà, on est
dans
assez émotif.
On n'est pas dans le contournement.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et puis, voilà.
De toute façon, vous n'avez jamais ressemblé à la javanaise traditionnelle qui sourit et se tait. C'est pas du tout dans votre ADN, ça.
Non, mais je souris, oui. Je me tais, non. Faut pas.
Angoune, votre fille de 14 ans connaît bien l'Indonésie. Vous lui avez fait découvrir ces pays.
Bien sûr, c'est dans son identité. Je lui parle uniquement en indonésien.
C'est vrai?
Oui, et mon mari étant allemand, nous parlons en anglais à la maison. Elle est scolarisée en France. Donc elle
maîtrise quatre langues alors?
Bah, en fait, l'allemand est très très difficile. Donc là, pour l'instant, puisque mon mari ne parle pas indonésien,
oui.
Donc, je comprends son allemand, je comprends l'allemand un petit peu, mais je ne parle pas. Et ma fille fait pareil.
Mais puisqu'on parle de l'Indonésie, que vous lui avez fait donc, visiter, où faut-il aller quand on est touriste, un touriste français, et qu'on dispose par exemple d'une quinzaine de jours?
C'est court, mais il faut un mois.
Alors, on a un mois.
Oui, mais il y a un congé payé de 2 mois en France. Non, mais je ne sais pas. Enfin, il faut aller à Java. De toute façon, il faut connaître la capitale, hein, qui est Jakarta. Il y a tout qui va très, très vite là-bas. Mais par contre, les Français qui aiment marcher n'aimeront pas Jakarta, mais parce qu'il n'y a pas de trottoir dans les rues.
Il n'y a pas de trottoir.
Donc,
vous voulez dire que les voitures rasent le bas des immeubles? Il n'y a pas de trottoir.
Non, il n'y a pas de trottoir. Il y a juste un petit, je ne sais pas, c'est pas un parvis, enfin un endroit, mais c'est tout, juste pour les réverbères. Mais il n'y a pas de trottoir,
il n'y a pas d'accident.
Il y a beaucoup d'accidents.
C'est pour ça qu'il y a peu de piétons alors.
Oui, voilà. Mais par contre, il faut aller à Bali, bien sûr. Ma maison est là-bas.
Oui.
Donc nous retournons là depuis la pandémie, on pouvait pas, mais là d'habitude en fait on retourne en Indonésie entre 5 à 6 fois par an, et voilà, c'est parce que c'est important que ma fille aussi voit ma mère, parce que mon père n'est plus là et elle connaît la famille. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'elle rentre de l'Indonésie, elle parle indonésien avec un vrai accent indonésien, mais plus avec un accent français, parce qu'elle se dit l'horreur.
Mais l'accent français revient au bout d'un mois.
Oui, mais là, ça fait 2 ans, elle n'a pas voyagé en Indonésie. Et là, elle parle vraiment comme un touriste. Comme une touriste.
C'est charmant. Bon, Angoune, il y a peu de temps, jour pour jour, 20 ans après avoir été la première artiste d'origine asiatique à entrer dans les charts américains, eh bien, vous êtes entrée avec un titre inédit en France, Perfect World, dans le si convoité top 5 des Billboard Dance Charts aux États-Unis. Pourquoi Perfect World n'est-il pas sorti en France? Puisque ça fait un carton en Amérique.
Bah, c'est parce que c'est en anglais, vous savez,
il y a toujours ce quota. Il y a beaucoup de titres anglais qui passent dans les radios françaises.
Oui, mais pour la radio française, je suis une artiste française. Donc, il ne faut pas que je chante en anglais. C'est pour ça que mes albums en anglais ne sont pas connus ici. Mais ce n'est pas grave. Et je trouve ça très, très bien, en fait. J'aime bien avoir plusieurs identités, multiples identités ailleurs qu'en France.
C'est étonnant. En tout cas, les États-Unis vous aiment, car c'est le quatrième single qui est entré bien placé dans les charts américains.
Oui, mais les charts dance. En fait, il y a une communauté... De DJ, qui me suivent là-bas et je suis très très reconnaissant.
Oui. C'est vous qui composez ?
Mes chansons en anglais, c'est moi qui écris.
Oui. Bon, alors on vous connaît depuis 25 ans, Angoune, et le temps il vraiment glisse sur vous, il ne vous effleure même
c'est
pas.
C'est gentil.
Mais non, je vois ce que je vois. Or, vous dites que en tant qu'Asiatique, c'est ce que vous dites, je n'ai pas la même façon que les Occidentales de concevoir l'âge et le temps qui passe, c'est-à-dire...
C'est vrai, parce qu'en fait, tout simplement, on nous a appris que... nous n'avons pas du tout la même notion du temps. La plupart des Indonésiens, lorsque vous demandez « mais quel âge as-tu ?», ils ne savent même pas comment répondre. Parce que ce n'est pas important. Oui, c'est ça. En fait, depuis que je suis là, bien sûr, j'ai l'âge que j'ai. Je sais mon âge, je connais et puis je suis très, très fière. C'est vrai que ça n'a pas la même résonance ici. En Indonésie, c'est autre chose. Lorsque vous arrivez à un certain âge, lorsque vous êtes devenue maman, on vous regarde différemment. Il y a une espèce de douceur, de bienveillance.
Qui n'existe pas en France.
Qui n'existe pas ici. Malheureusement, ici, on est toujours... courir vers le jeunisme, peut-être. Les chansons à la radio, il faut faire... Il faut plaire aux jeunes. Alors qu'on n'a pas ça. Et comme je n'ai pas ça dans ma mentalité, peut-être que c'est une manière qui me sauve de voir... De vieillir, tout simplement. Avec de l'élégance et de grâce, si possible.
que ce terme, d'ailleurs, vous convient bien. Qui est en réalité votre nom, donc, en indonésien. Alors, Angoune, en fait, j'imagine que vous avez peut-être le sentiment de démarrer une nouvelle carrière avec ce défi follement excitant d'Al Capone, puisque, en tout cas, c'est une première pour tout le monde. On a dit que c'était une première pour Roberto Alagna.
Pour
Jean-Marc Dumontel, le producteur. Ouais. Première, pour le défi d'une comédie musicale. Jamais ça ne vous était arrivé auparavant. On vous en a proposé, vous avez toujours refusé.
C'est vrai.
Et là, vous acceptez celle qui vraiment est... tout en haut de la pyramide, à un degré d'exigence et d'excellence phénoménal.
Je commence à
avoir peur. Non, alors je ne dis plus, je gomme ce que je viens de dire.
Non, pas du tout.
Mais est-ce que c'est une nouvelle carrière qui démarre ?
Peut-être, j'en sais rien du tout, mais tout simplement, en fait, maintenant, je me dis qu'à ce stade-là, j'ai 48 ans, on me propose encore des choses qui m'excitent, en fait, des nouvelles choses. Et je me disais que, il faut entreprendre, il faut vraiment le prendre. Et puis, je trouve ça génial que, comme vous dites, ça fait 25 ans, je suis en France. Il y a encore des projets comme ça qui me font peur, des nouvelles choses qui finalement, peut-être, va me donner l'envie de voir ce métier ou de faire ce métier différemment. Et ça n'a pas de prix, finalement.
Eh bien, nous aussi, on attend Al Capone, voilà. Et en attendant Al Capone, donc, à partir du 28 janvier prochain, eh bien, Angoune, on vous retrouve tous les vendredis sur TF1, dans Mask Singer, émission surréaliste et euphorisante en diable, qui met des couleurs, qui met du technicolore, qui met de la fluorescence sur le gris du monde.
Exactement, c'est léger, c'est sympa, c'est bien enfant, c'est bon enfant, c'est drôle.
C'est déjà terminé, c'est pas possible, passe vite, une heure avec vous.
Ah, c'est cool de vous parler, vraiment. J'ai passé un moment agréable.
Merci infiniment, chère Angoune. Et vous, surtout, ne changez rien. Je vous embrasse. À très vite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h. Isabelle Morizet.